La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Bonsoir à tous, c'est Pierre, changeons d'air. J'espère, chère auditeurice, j'espère que tu vas bien ou en tout cas que tu essayes. C'est vrai que les temps ne sont pas à la joie. Il suffit d'ouvrir n'importe quel bulletin d'information pour se rendre compte que le monde s'est déjà porté mieux. Les dossiers s'accumulent, les nouvelles ne font que nous créer de nouvelles peurs, de nouvelles angoisses, plus persistantes les unes que les autres. Et ça, bah moi, ça m'emmerde. Oui, j'ose le dire, à une heure de grande écoute, à la radio. Non, en vrai, vous êtes 5 à nous écouter, tout va bien. Ça m'emmerde, j'ose le dire, en tant que petit individu privilégié, blanc, parisien, tout ce que tu veux, ça m'enquiquine. Et contre ça, que faire ? On peut toujours se cacher, se camoufler dans une réalité bien à nous, faite de films, de bonne musique, de petits apéros au but de Chaumont avec du vin blanc, et surtout d'œillères grosses comme la taille des enjeux qui nous attendent. Ou alors, on peut essayer de s'unir, et de se dire que ce mal-être, on le ressent pas tout seul, et que peut-être qu'ensemble, on donnera un peu d'espoir aux autres. Et ça, c'est dans ce sens-là, je pense, qu'a été créé le concert caritatif d'Union pour la cause palestinienne, organisé par le très bon rappeur Tiff, étendard d'un nouveau style de rap qu'on appelle le néo-rail, et tout simplement très bon rappeur. Le 22 mai dernier, donc, il y a quelques jours, s'est tenu en grande pompe au Zénith de Paris, un concert que je qualifierais, en faisant attention au poids de mes mots, d'historique. J'y étais, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Pour cette noble cause que nous connaissons tous, des artistes se sont réunis pour apporter leur soutien et leur voix à la cause palestinienne. Il faisait bon être militant pendant quelques heures aux côtés de gens venus dans la paix, crier leur soutien, crier leur envie que les choses changent, crier leur sentiment d'appartenance. Toute la pertinence de ce concert était de réunir des artistes que l'on aime beaucoup, en tout cas que moi j'aime beaucoup, comme Alpha One, Dean Burbigo, Zemdan ou encore Rimka, au même endroit pour créer un engouement, une attraction et être sûr de vendre des places. D'ailleurs, en moins de quelques heures, 100 000 euros ont été récupérés et pour aider les familles présentes dans la bande de Gaza. Et l'apparition de Rimka, croyez-moi, ça valait quelque chose. Le Kabyle en moi n'a jamais lâché des coups de hanche comme ça. Bref, tout ça pour exprimer mon soutien et surtout dire un très grand merci à ces hommes et ces femmes qui ont été à l'initiative de cet événement qui, je crois être sûr de dire ça, nous a tous un peu fait grandir. Sur ce, messieurs, dames, le programme de ce soir, nous allons recevoir quelqu'un de beaucoup plus pertinent que moi pour parler du génocide, Anne Thuaillon, présidente de l'association AFPS, Association France-Palestine Solidarité, que Hugo et José-Louis ont le plaisir d'interviewer. Puis nous écouterons un peu de musique avec Trifem, Sandy Family, puis elle sera interviewée par encore José-Louis et Hugo dans le Zoom. Ensuite, une chronique d'Yvan, une chronique de Gauthier, et nous raccrocherons l'antenne.
La matinale de 19h.
Anne Thuaillon, nous entendez-vous ? Peut-être, j'espère.
Alors, on nous dit en régie qu'elle n'est pas encore là.
Qu'elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, j'en suis sûr.
Elle va sûrement arriver. Bonsoir, Anne Thuaillon est présidente de l'association France-Palestine. Allô, Anne Thuaillon ? Bonsoir.
Oui, je vous entends.
Ah,
oui,
tant mieux.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, je disais, vous êtes présidente de l'association France-Palestine Solidarité. C'est une structure qui rassemble des personnes attachées aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense des droits humains. Alors, tout d'abord, une première question. Qu'est-ce que l'association France-Palestine Solidarité ?
Eh bien, l'association France-Palestine Solidarité, AFPS, est une association qui regroupe dans toute la France 5500 adhérents. Qui sont rassemblés dans 110 groupes locaux de tailles diverses. Ça peut aller de groupes locaux d'une quinzaine de personnes, mais également des groupes beaucoup plus importants de jusqu'à 200 ou 250 personnes. Et nous sommes donc organisés dans toute la France. Et comme vous l'avez dit, nous sommes essentiellement attachés à l'application du droit au peuple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et particulièrement les droits du peuple palestinien et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination en premier lieu.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques actions que vous menez pour soutenir le peuple palestinien ?
Alors, nous avons une grande variété d'actions. Déjà, la première des choses, c'est d'informer les gens autour de nous de ce qui se passe en Palestine, de la manière dont les Palestiniens sont traités, de ce que nous entendons par régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Donc, tout un tas d'informations sur la situation et sur ce que vivent les Palestiniens. Et puis, nous avons aussi, nous faisons connaître la culture palestinienne, particulièrement à travers des festivals de cinéma, par exemple, ou des concerts où nous faisons venir aussi des troupes d'acteurs ou de danseurs ou de musiciens palestiniens. Et puis, nous organisons des conférences également. Nous faisons venir des Palestiniens pour qu'ils décrivent la situation qu'ils vivent. Nous sommes également en contact avec des acteurs de la résistance palestinienne, de la résistance populaire non violente palestinienne. Et donc, ils viennent aussi en France expliquer en quoi consiste ce mode de résistance. Que vous dire d'autre? Et puis, nous avons aussi des actions en direction des politiques pour qu'ils fassent avancer les choses au niveau légal, au niveau institutionnel également.
Et alors, comment est-ce que nous, citoyens français, on peut vous soutenir?
Alors, c'est pas nous qu'il faut soutenir, c'est le peuple palestinien. Et alors, ce que je n'ai bien pas sûr dit, et qui est une grande partie de notre action en ce moment, eh bien, c'est la mobilisation citoyenne pour faire entendre la voix des Palestiniens et pour que, enfin, justice leur soit rendue par rapport à cette injustice qu'ils vivent depuis 76 ans maintenant. Alors, en ce moment, la mobilisation, mais c'est beaucoup organiser des manifestations, des rassemblements pour dénoncer ce qui se passe en ce moment, mais aussi pour rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre et que cette histoire est quelque chose qui dure depuis 75, 76, voire une centaine d'années. Alors, comment soutenir ? Eh bien, en participant aux actions, particulièrement en participant aux rassemblements, en participant aux manifestations. On a vu que depuis le début de la semaine, après l'horreur qui s'est passée à Rafah avec le bombardement du campement précaire où ont été assassinées 45 personnes, dont beaucoup d'enfants, de femmes et d'enfants, eh bien, donc depuis lundi, il y a eu des rassemblements tous les soirs pour dénoncer cette situation et pour créer vraiment notre révolte par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, une des manières de soutenir le peuple palestinien en ce moment particulièrement est de se mobiliser un maximum pour faire entendre notre voix et faire entendre leur voix surtout.
Alors, vous nous demandez de participer, de faire entendre notre voix, mais est-ce que ce sont les seuls moyens? Est-ce que aujourd'hui, votre association, qu'est-ce qu'elle a besoin de plus en dehors de se rassembler et de manifester?
Mais notre association, elle a besoin de ces manifestations, bien sûr, mais elle a besoin aussi de relais pour parler de Palestine, en fait. Ce qu'il faut, c'est ne jamais cesser de parler de Palestine, ne jamais cesser de dire quelle est la réalité sur place et surtout ne pas se laisser impressionner par ceux qui veulent faire croire que parce qu'on critique la politique de l'État d'Israël, nous serions antisémites, nous serions racistes, nous serions je ne sais quoi encore, alors que ce qui fonde notre engagement, ce qui est à la base de notre engagement, c'est justement l'antiracisme, la justice et l'égalité entre les peuples. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui veulent faire croire que critiquer un État, critiquer la politique d'un gouvernement d'extrême droite, d'un gouvernement raciste, d'un gouvernement fasciste, équivaudrait à être soi-même raciste. C'est tout le contraire. Nous dénonçons cette politique raciste parce que notre objectif, c'est qu'il y ait l'égalité des droits de tous les citoyens qui vivent sur cette terre entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Il y a entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain un peuple qui est opprimé par un autre, et ça c'est quelque chose qui doit cesser. Donc dire cela, c'est être un militant pour l'égalité et en aucun cas être quelqu'un qui pourrait être apparenté à un raciste.
Bien sûr. Y a-t-il des projets ou des campagnes spécifiques que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui?
Alors, il y a une campagne centrale qui dure depuis 2005, qui est une campagne citoyenne, qui est une campagne non violente, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Et ces trois lettres s'adressent à trois catégories de personnes différentes. Le S, c'est quelque chose que nous demandons, que nous crions dans la rue, ce sont les sanctions, parce que si cette situation dure depuis si longtemps, c'est parce qu'il y a l'impunité d'Israël, et c'est parce qu'Israël peut fouler aux pieds et violer le droit international sans aucune sanction. Donc ça, les sanctions, c'est le devoir des États, et les États ne s'en acquittent pas. Le D, c'est le désinvestissement. Le désinvestissement, il s'adresse à toutes les entreprises qui sont complices des violations du droit par Israël, qui sont complices de la colonisation, qui sont complices de l'occupation, qui sont complices de l'apartheid et qui maintenant sont complices du génocide. Ça, c'est le D. Donc, ce sont ces entreprises qui doivent se désinvestir, et nous avons un certain nombre, nous avons des campagnes à l'encontre de ces entreprises pour qu'elles se désinvestissent, et en ce moment, celle qui a le plus d'écho, c'est la campagne contre Carrefour, qui s'est alliée avec une entreprise de commerce en Israël, et dont les produits sont présents dans les colonies israéliennes. Donc, ça, c'est le D, donc désinvestissement. Nous demandons à Carrefour de se désinvestir de son engagement avec cette entreprise israélienne. Et puis le B. Le B, c'est le boycott. Et le boycott, c'est par essence l'action citoyenne, l'action que nous pouvons tous et toutes faire. Et c'est vraiment quelque chose de simple, quelque chose qui répond à cette question: que pouvons-nous faire? Eh bien, il y a tout un tas de produits à boycotter, d'entreprises à boycotter. Et pour faire court, ce sont ces fameuses entreprises qui sont engagées dans la colonisation, dans l'occupation et dans l'apartheid. Et puis les produits, ce sont tous les produits qui sont issus des entreprises israéliennes et qui contribuent à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid et au vol des terres palestiniennes. Donc ça, vraiment, le boycott, c'est à la portée de tout le monde. Et ce soir, nous appelons à boycotter TF1 et LCI, parce que vous avez peut-être entendu que Netanyahou devrait être interviewé pendant une demi-heure ce soir sur LCI, ce qui est un véritable scandale qu'un criminel de guerre, quelqu'un qui est présenté par le procureur de la Cour pénale internationale comme un criminel de guerre et un criminel contre l'humanité, soit invité à une télévision française à une heure de grande écoute. Donc voilà, ça fait partie des choses que nous appelons les gens à faire. Boycotter Carrefour, c'est quelque chose de simple. Boycotter TF1, même si je ne pense pas que beaucoup d'étudiants suivent TF1. Mais voilà, des choses simples à diffuser et à faire.
Alors, on dit souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que votre association récolte des dons? Comment ces dons sont employés? Et si on veut faire un don, est-ce que c'est possible? Comment ça fonctionne?
Alors oui, effectivement, nous récoltons des dons, et ces dons que nous récoltons sont envoyés à nos partenaires en Palestine, alors que ce soit à Gaza, que ce soit à Jérusalem, ou que ce soit en Cisjordanie occupée. Ce sont des partenaires qui sont soit des organisations de défense des droits humains, soit des organisations de résistance populaire,
soit des organisations
médicales. Et donc, ils nous disent de quoi ils ont besoin pour des actions sur le terrain, et nous leur envoyons ces dons pour qu'ils puissent faire leurs actions sur le terrain. Donc, si certains veulent contribuer, sur le site de notre association, l'association France-Palestine Solidarité, il y a le moyen de faire un don, en ligne.
Et du coup, est-ce qu'on peut, on peut voir l'impact direct de ces dons ou des actions qu'on mène? Est-ce que
sur le site, vous pouvez avoir des exemples de à quoi servent ces dons. Alors, quelque chose que nous venons de faire, mais qui n'est pas encore sur le site, par exemple, il y a un peu plus d'un mois, les colons sont venus dans un village aux alentours de Ramallah et ont incendié le village, plusieurs dizaines de maisons du village, laissant les habitants complètement démunis puisqu'ils n'avaient plus rien. Donc, avec les acteurs de la résistance populaire là-bas, nous avons envoyé des fonds pour qu'ils puissent acheter de l'électroménager, des matelas, le nécessaire, un frigo, des matelas, pour qu'ils puissent rester malgré tout dans leur maison, bien qu'elles étaient lourdement endommagées. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que nous faisons. À Gaza, nous avons envoyé des fonds pour que les familles puissent avoir des panneaux solaires leur permettant d'avoir un minimum d'énergie pour faire fonctionner leur foyer dans les conditions assez terribles dans lesquelles ils sont.
Très bien.
Donc ce ne sont pas des actions énormes, ce sont des actions de soutien à nos partenaires pour qu'ils puissent, dans la situation assez terrible qui est connue actuellement, pour qu'ils puissent continuer à tenter de survivre dans les moins mauvaises conditions.
Très bien, Madame Chaillot, nous allons vous reprendre d'ici trois petites minutes, le temps de marquer une petite pause musicale avec Lunch de Billie Eilish, et nous vous reprendrons tout de suite. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Écoutez Lunch de Billie Eilish. Anne Thuaillon, j'espère que vous êtes toujours au téléphone avec nous. Nous allons tout de suite essayer de vous poser des questions un peu plus pragmatiques sur la situation sur place.
Tout d'abord, qu'est-ce que les récents bombardements des derniers jours provoquent comme réaction au sein de votre structure ?
Disons qu'au sein de notre association, ça provoque ce qui est l'accumulation de révoltes par rapport à ce qui se passe depuis 8 mois. Mais ce qui se passe depuis 8 mois, nous le suivons. Et presque dire que rien de nouveau depuis 8 mois, si ce n'est que ce qui s'est passé dimanche a été encore plus monstrueux parce que des gens ont été brûlés vifs et surtout parce que ça s'est su. Mais nous suivons de très près tout ce qui se passe depuis 8 mois dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et il y a toujours autant de morts chaque jour. Et ce qui s'est passé dimanche a été plus visibilisé, donc a provoqué une réaction importante, plus importante que jusqu'à présent dans la population. Mais chez nous, ça a juste provoquer toujours plus de dégoût et toujours plus de révolte, parce que nous sommes en contact au quotidien avec les Palestiniens là-bas sur place et nous savons à quel point leur quotidien est juste invivable. Ce n'est même plus de la survie et la seule chose qu'ils veulent, c'est un cessez-le-feu immédiat, maintenant, tout de suite, pour au moins pouvoir respirer et essayer de recommencer à avoir un quotidien. Alors, il ne sera pas normal avant très longtemps dans la bande de Gaza, mais au moins ne pas vivre sous la terreur permanente. Imaginez quand même que depuis 8 mois, les enfants dans la bande de Gaza vivent dans un état de terreur permanent. Et c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Donc voilà, nous, ça a été une étape de plus, mais toujours la même conviction qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut que la France agisse pour imposer à Netanyahou l'application du droit. C'est absolument incroyable. Il y a eu 3 séries d'ordonnances de la Cour internationale de justice et à chaque ordonnance, Netanyahou a franchi un pas de plus vers l'ignominie. Et ce qui s'est passé dimanche est la réponse à la Cour internationale de justice. C'est juste abominable.
Et pour autant, ce soir, le groupe TF1 reçoit Benjamin Netanyahou, le président d'Israël, en direct sur LCI avec Darius Rochebain. Pourquoi cette interview a lieu? Pourquoi est-ce qu'elle est problématique? Et est-ce qu'il y a des actions de prévues?
Alors, pourquoi elle a lieu? C'est quelque chose que nous ne nous expliquons pas. Comment il se fait que le groupe TF1 reçoit quelqu'un qui est qualifié par le procureur de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, de criminel de guerre et de criminel contre l'humanité? Nous ne parvenons pas à nous expliquer pourquoi il est reçu. Pour nous, c'est un crachat à la tête de tous les victimes, c'est un crachat à la tête des enfants, c'est un crachat à la tête des civils et c'est un crachat à la tête des 138 journalistes qui ont été assassinés et ciblés, eux et leurs familles, parce que journalistes. Ils ont été ciblés par des tirs israéliens parce qu'ils voulaient faire leur travail de journaliste. Et des journalistes vont recevoir celui qui organise tout ça, qui organise la famine de 2,5 millions d'habitants depuis 8 mois. C'est quelque chose qui nous révolte, mais du plus profond de nous-mêmes. Et oui, il y a quelque chose de prévu en ce moment, devant le siège de TF1, un rassemblement a lieu pour dire que ce n'est pas possible que un homme comme Benjamin Netanyahou soit interviewé sur une télévision française. Imaginons que les mêmes journalistes aient interviewé Vladimir Poutine 8 mois après les crimes commis en Ukraine. C'est quelque chose qu'on n'imagine même pas. Mais voilà, il y a des groupes de presse, il y a des journalistes que ça ne gêne pas et c'est vraiment quelque chose qui nous révolte au plus profond de nous-mêmes.
Effectivement, on sent qu'il y a vraiment un décalage dans le traitement de l'information et de la situation. Justement, pourquoi on ne parle pas de génocide? Pourquoi les politiques, les représentants ne parlent pas de génocide?
Alors, vous dites un décalage entre les présentations. Effectivement, il y a un très fort décalage au niveau des médias, mais il y a surtout un très fort décalage au niveau du traitement politique, des décisions politiques qui sont prises. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, il n'a pas fallu 48 ou 72 heures pour que les États occidentaux prennent une première salve de sanctions, et il y en a eu énormément à la suite. Et là, rien ne se passe au niveau des sanctions contre Israël. Et effectivement, il y a du mal à nommer les choses. Et même prononcer le mot de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, vous parlez de génocide. Nous sommes convaincus parce que nous confrontons les faits au regard de la définition en droit du crime de génocide par la Convention de prévention du crime de génocide, nous sommes convaincus que c'est un génocide qui est en cours dans la bande de Gaza. Mais même des crimes qui sont moins forts, moins violents que le crime de génocide, la notion de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, très grand nombre de politiques français n'arrivent pas à le prononcer. Nous avons même un ministre des Affaires étrangères qui n'arrive pas à dire que le territoire palestinien est occupé. il parle des territoires. Ce sont des territoires qui sont occupés militairement. Et on entend depuis quelques jours de nouveau, avec la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays européens, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, on entend reparler de solutions politiques, de reconnaissance de l'État de Palestine. Et on peut entendre des gens en parler pendant une heure en oubliant de rappeler que la Palestine, que le territoire palestinien est sous occupation militaire. Et on fait comme si on pouvait régler des situations politiques alors que les peuples sont sous occupation militaire. Ce matin, l'armée israélienne a incendié un très grand marché aux légumes à Ramallah.
Mais alors, dans ce contexte,
capitale administrative.
Oui, mais alors, comment on fait dans ce contexte, quel avenir pour la Palestine alors ?
L'avenir pour la Palestine, c'est l'application du droit. Et l'application du droit ne peut passer que par la fin de l'impunité d'Israël. Le nœud, il est absolument là. Il faut que ceux qui se disent les amis et les alliés d'Israël cessent de cette impunité. Il faut des sanctions. Il n'y a que par les sanctions que Netanyahou sera contraint de se conformer au droit. Et le droit, c'est l'autodétermination du peuple palestinien. Ce peuple a droit à la liberté, a droit à la justice et a droit à l'égalité. Ce sont des gens en Cisjordanie qui vivent depuis 56 ans sous occupation militaire. Il faut imaginer ce que c'est que l'occupation militaire. Depuis le 7 octobre, en Cisjordanie, des milliers de Palestiniens ont été arrêtés. Ils sont maintenant plus de 10 000 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. La plupart de ceux qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre n'ont pas été jugés. Ils sont dans ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'il leur est reproché. Ils sont en détention administrative pour 6 mois, reconduits. On est dans une situation où c'est l'arbitraire le plus total. Plus de 500 morts depuis le 7 octobre en Cisjordanie, tués par l'armée ou par les colons. C'est une situation qu'on n'imagine pas et que personne ne rappelle. Donc, il faut vraiment rappeler que c'est une situation d'occupation militaire et que les Palestiniens ne sont pas en situation de négocier. Des gens qui sont sous occupation militaire ne peuvent pas négocier avec leur oppresseur. Donc, il faut que les alliés d'Israël impose à Israël l'application du droit, et là peut-être qu'on pourra reparler du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, parce que l'objectif c'est ça, c'est les Palestiniens comme tous les autres peuples ont droit d'avoir un État, ont droit de vivre en liberté sur leur terre, et l'objectif c'est vraiment celui-là, mais ça passe par l'application du droit par Israël.
Et vous parliez juste avant de reconnaissance de l'État palestinien. Il s'avère que hier a eu lieu un entretien entre le président palestinien et le président français. Il en est ressorti que dans l'immédiat, la France ne va pas reconnaître un État palestinien. Mais alors, quelles seraient les conséquences d'une reconnaissance de l'État palestinien par la France, et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas ?
Pourquoi elle ne le fait pas ? Parce que la France ne veut pas contrarier son ami israélien. Je veux dire, il faut quand même se rappeler que une des premières personnes que Emmanuel Macron a reçue quand il a été élu, dès le mois de juillet, il a reçu Benjamin Netanyahou et il lui a dit « cher Bibi ». Enfin, on se demande où on est. Enfin, dire « cher Bibi » au premier ministre d'un État qui occupe militairement un peuple et qui colonise ce territoire, c'est juste indigne. Alors, pourquoi la France ne veut pas reconnaître l'État de Palestine ? Pour moi, c'est très simple, parce qu'elle ne veut pas contrarier Benjamin Netanyahou.
Si on peut finir assez rapidement, Madame Thuaillon, désolé.
Parce qu'on va... Pardon ?
Non, rien. C'était juste pour vous dire qu'on va devoir clore ce moment. Et je voulais surtout vous remercier d'apporter cette parole-là aux étudiants parisiens qui nous écoutent, et pour bien comprendre le problème et pour bien pouvoir le défendre. Merci beaucoup, Madame Thuaillon.
Eh bien, merci à vous. Merci.
C'est bien normal. Tout de suite, la chronique de José Louis.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Pas passons maintenant donc à la chronique de José Louis. Il fait chaud ou bien c'est moi, José Louis ?
Bonjour, bonjour à tous. Je pense qu'il est temps de parler d'un sujet qui préoccupe tout le monde, la météo. En effet, après avoir entendu pour la 10e fois quel temps de merde, je me suis dit qu'il fallait que j'adresse le problème. Alors, que s'est-il passé avec notre cher mois de mai ? Eh bien, il semblerait que décembre ait pris possession des températures et ait décidé de jouer à la montagne russe, nous faisant passer de la douceur de fin mars à un début avril plutôt frisquet, avec même de la neige en pleine, pour finir le mois de mai avec une perturbation qui nous fait l'eau de sa présence, balayant le pays de ses pluies et de son ciel chargé. Plus chargé que les mojitos que je servais quand j'étais corvée de bar aux soirées de mon BDE, je précise. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, les températures devraient repasser au-dessus des niveaux de saison. Ah, la météo, aussi prévisible qu'un épisode des Kardashians. Mais parlons un peu du gros nuage dans la pièce, le changement climatique. Vous savez, ce petit phénomène que nous avons tendance à ignorer jusqu'à ce qu'il frappe à notre porte avec une facture de dégâts des eaux. Il semblerait que nous soyons en train de battre des records de température, plus souvent que Zemmour dans les urnes, c'est ce qu'on dit. En résumé, le réchauffement climatique est un phénomène qui existe depuis l'ère industrielle, mais c'est au milieu du XXe siècle que l'on a vraiment pris conscience de son accélération et de son impact potentiel sur notre environnement et notre société. Et depuis, la température, elle ne cesse de monter. Et oui, chers bobos et campagnards climato-sceptiques, la planète chauffe et les conséquences sont loin d'être simplement l'impossibilité de changer de garde-robe. Nous parlons d'événements météorologiques extrêmes, des sécheresses, des inondations et même des pertes économiques se chiffrant en milliards d'heures de travail perdues. Et pendant que nous sommes là à débattre si oui ou non il faut prendre le parapluie, des régions entières sont confrontées à des risques climatiques accrus avec des populations qui doivent s'adapter ou déménager. Alors, chères auditrices, pendant que vous vous préparez à sortir vos manteaux, crucifix et bougies d'incantation pour affronter cette fin du mois de mai, n'oubliez pas que le changement climatique n'est pas juste une conversation de table, c'est une réalité qui est déjà à l'œuvre. Et si nous ne faisons pas attention, nous pourrions bien nous retrouver avec un été plus chaud que le dernier album de Rihanna. Pensez-y, twerker sous 40 degrés, un peu compliqué quand même. Hein. Plus sérieusement, il est temps d'agir pour le climat. À la prochaine pour une nouvelle chronique, en espérant que le soleil soit de la partie et pas seulement dans nos cœurs.
Merci beaucoup José Louis, en tout cas tu auras réchauffé le mien. Oh, tout de suite on s'écoute Sunday Family de Trifem. s'écouter donc Sunday Family de Trifem. J'espère que vous êtes toujours avec nous.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et Hugo reçoit donc Trifem qui est avec nous dans les studios. Bonsoir.
Bonsoir.
Hey, salut. Donc, tu es Tiffaine Belin, donc tu es la chanteuse du groupe Trifem. Votre nouvel album, c'est un groupe d'ailleurs ?
Non, je suis toute seule. Mais j'aimerais énormément avoir un groupe, donc c'était un lapsus révélateur qui ne venait pas de moi.
C'était fait exprès, c'était calculé bien sûr. Alors, ton nouvel album du coup sort le 21 juin sur le label Impatience. Ce qui est assez marrant, c'est parce que c'est justement une musique qui évoque un peu la patience, on a l'impression, la patience du désir, la patience de... Je sais pas, en tout cas... Ça n'évoque pas l'impatience, à mon sens. Alors, mais pourquoi ce nom ? Pourquoi Trifem ?
Trifem, je m'appelle Tiffen. Et en fait, en me promenant un jour, parce que j'ai habité à Lyon pendant 5 ans, et je me promenais sur les quais de Saône, et il y avait une installation d'un artiste qui avait fait plein de petites gravures le long, avec des mots très étranges, qui, pour moi, voulaient rien dire. Et je suis tombée sur Trifem. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ça va être mon nom de scène parce que j'avais beaucoup de mal à en trouver un. Et ça a été un peu une révélation. Et je me suis dit, allez, c'est parti.
Ok, fou. Donc, un rapport avec Lyon.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une ville qui m'a beaucoup nourrie. Et c'est là où j'ai composé mon premier album. Et je trouve que c'est une ville qui est super poétique, avec une scène qui, à l'époque où j'y étais, était très riche. Il y avait beaucoup de super trucs, donc voilà.
Parce que j'ai lu que le prochain album a été composé en grande partie à Char, dans le 95, que tu as été influencé par l'atmosphère étrange du village, et par des voyages fréquents aussi en Bretagne. Est-ce qu'il y a un mysticisme particulier dans ces lieux qui t'a évoqué, qui t'a permis de faire cet album ?
Oui, totalement, et d'ailleurs, Sunday Family... Il y a un endroit où je me promenais beaucoup à Char. Il y avait un espèce de camp de gens du voyage abandonnés. Et ça me fascinait. Il y avait des objets qui étaient laissés là. Et je les regardais. Je me demandais qu'est-ce qu'ils avaient pu vivre, à qui ils appartenaient, pourquoi les gens étaient partis d'un seul coup. Et en même temps, j'ai un ami qui m'a envoyé un compte Instagram qui s'appelle Sunday Family. Et c'est justement des gens du voyage à Montreuil. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai fait un espèce de mélange de tout ça. Et je trouvais ça fascinant, les vidéos. Enfin, c'est un type et sa copine. Et je trouvais ça beau et à la fois triste, leur relation. Et justement, on les voit danser. C'est des vidéos où ils dansent ensemble. Et ça me... Je trouve qu'il y avait de la mélancolie beaucoup de mélancolie dans ce compte Instagram qui, pourtant, est censé être drôle, mais moi, je trouve ça touchant et mélancolique.
Okay. Voilà. Et le compte était lié aux gens du voyage, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu dramatique, en vrai. Il a changé de copine, il en a une nouvelle. Du coup, il se filme avec une nouvelle copine. Et je me disais, mais non, moi, c'était eux, c'était ceux d'avant, sa copine d'avant qui me plaisait. Et je sais pas, on sent qu'elle a l'air un peu prisonnière, en fait, de ce compte Instagram. Enfin, c'est lui qui filme, etc. Et donc, on sent, il y a de la tristesse, une espèce de belle tristesse dans son expression.
Est-ce que c'est une émotion que tu mets dans ta musique, une sorte de mélancolie un peu triste et joyeuse à la fois
ou... Ouais, totalement. J'aime bien le mélange des deux, en fait. J'adore cet état de joyeuse tristesse. je m'y sens bien.
En fait, finalement, c'est quand on est le plus triste qu'on arrive à être heureux à un moment. C'est-à-dire quand on est j'ai l'impression que quand on est un peu au milieu... On n'est jamais ni bien ni pas bien. Et quand on est très triste, hop, d'un coup, on remonte.
Ouais, exactement. Et on peut même se nourrir au final de cette tristesse. Enfin, je pense qu'il faut chérir chaque émotion, en fait, qui fluctue.
Et qu'est-ce que la musique apporte dans cet état, justement, de tristesse ? Est-ce que la musique te nourrit à toi et te permet de
en sortir ? Oui, totalement. Ça permet de le poser sur, j'allais dire sur du papier, mais pas vraiment. Ça permet de poser l'émotion et même d'y revenir après. En fait, c'est presque un travail thérapeutique, finalement. Et ça permet d'emprisonner des moments, parce que même quand on écoute une musique, ça capture un instant. Et quand, c'est comme une Madeleine de Proust quand on la réécoute. Et j'adore écouter des morceaux que j'ai faits ou des morceaux que j'ai écoutés. Ça me permet un espèce de travail de... Je sais pas... Travailler sur moi.
Non, mais c'est complètement ça. On enferme des émotions dans une musique. Moi, je me souviens de lieux parce que j'ai écouté cette musique-là à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une captation de nos émotions. Mais toi, t'écris justement en anglais et en français. Est-ce qu'il y a une raison à ça particulière ?
Bah, je trouve que c'est plus facile de s'exprimer dans une autre langue. Bon, moi, je parle que français et anglais, donc il n'y a pas beaucoup d'autres langues dans lesquelles je peux m'exprimer. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus facile de poser des émotions dans, en anglais. Mais, et aussi, je ne sais pas pourquoi, le français, ça peut sonner un peu niant, mais c'est peut-être que mon point de vue à moi. Et ça me demande beaucoup de travail pour arriver à faire quelque chose qui me plaît en français. Ça me demande plus de travail que en anglais, mais j'adore aussi la sonorité du français et voilà, j'aimerais bien aller encore plus creuser le français et encore plus jouer avec ça, peut-être dans un prochain album.
Carrément. Mais on parlait juste avant à la pause de donc tes références musicales. Moi, j'entendais un peu de M83.
Oui, qui est une référence.
Exactement, une sorte de musique lancinante comme ça, mais justement, qui, en fait, c'est vraiment lié aux gens du voyage un petit peu, un truc de la route, les buissons qui roulent, et on entend un peu ça dans ta musique, une sorte de... On se pose pour penser, quoi.
Ouais, totalement. Et M83, qu'est-ce que j'ai pu écouter quand j'étais au lycée ? Kim and Jessie, il y a Couleur, qui est un espèce de morceau instrumental, c'est vraiment une espèce d'autre. Une autoroute de couleurs, je pourrais le visualiser comme ça, que je joue encore énormément.
Justement, tu le joues encore beaucoup. Est-ce que tu as un souvenir de scène qui t'a particulièrement marqué ?
Oui, alors...
Oh.
Ouais, il y en a vraiment... Je pense que c'est ma date préférée. C'était au Festival Vision en 2018, si je dis pas de bêtises. Et j'ai joué... C'était les conditions parfaites. J'ai joué après Terry Riley, dont je suis fan.
Okay.
Donc c'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi. Et donc j'ai joué dos. J'étais dos à la mer, avec le coucher du soleil. Et en fait, il y avait une espèce d'énorme pente, puis la scène. Et je commence à jouer. Et là, je vois des gens qui courent et qui dévalent la pente. Et tout le monde dansait, enfin il y avait une énergie. Je trouve que les Bretons, ils ont vraiment
ils
ont vraiment une super énergie. Et la nuit est tombée pendant que je jouais. Et il y a des gens qui sont montés sur scène, je dansais avec tout le monde. Les mecs de la sécu, ils pouvaient plus rien faire parce que c'était impossible de les retenir. Et c'était trop bien. J'ai adoré cette date. Je pense que j'ai pas particulièrement bien joué parce que c'était les débuts. Mais je sais pas, en fait, c'est pas si important que ça. Je pense que c'est ce qu'on donne à ce moment-là. Et j'étais dans une bonne énergie, les gens aussi. Et voilà, c'était absolument merveilleux.
Merci beaucoup, Tiffany.
Merci, c'est la fin. C'était trop bien.
C'était
vraiment cool.
C'était court, mais en vrai, j'ai adoré l'énergie
aussi.
Qu'on est ressorti. Merci beaucoup. Tout de suite, on va s'écouter un morceau du Roi sans couronne new-yorkais, d'un gars qui a quand même dans son palmarès d'avoir été plagié par Tupac. C'est parti pour When I Be On That Mic de Rakim. It's to my real ill, heavyweight hitters, go-getters, 50 ways to make figures, my they come on the spot to fail sisters, like the hair rail spitters, the kids on the zigger-ziggers, when it's ugly, then the club is lovely, thugs be sipping Hennessy and bubbly, to my comrade, to keep it flaming hot, on dangerous blocks, claiming spots, where the goal is, to be one of the top-ranked soldiers, holders,
one of the high rollers. Get respect in the hood, credit is good. Knock it down, lumberjack style, baby, extra wood. Rock it all night long, the bang-a-thon, baby, keep hanging on. We like it with the lights on. Don't have to blow 20 down to get to know honey style. Show her the town, steal her heart, no money down. Hardcore, real hell. I'm internationally known
when I be on the mic.
Hardcore, real hell. I'm internationally known, yo.
When I be on the mic,
hardcore, real hell. So all hell the honorable. How about some hardcore? Yeah, we like it raw for sure. Broads on the floor, wall to wall. It's more at the door, players ball to score. Cause this right here is for all of y'all. Rockin' my primo, yo, I got what you need, bro. You go see a show, tell me, yo. And DJs play hits with hard bass kicks. And then they display tricks like the Matrix. Make the record fly, undetected by the naked eye. Don't just feel the vibe, cause your ears never lie. Nowadays, DJs bags of tricks graphic. Also behind the backs, catching and scratching. Blasting, this kid got his craft mastered. Hands is mad quick like he mixed with magic. Spin it back and forth and grab it. And notice where it is.
There it is.
Internationally known
when I be on the mic.
Hardcore,
real hell.
I'm internationally known, yo.
Hardcore, real hell.
I'm internationally known
when I be on the mic.
Hardcore,
real hell.
To all help the honorable. To my league peace with the murderous mystiques. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid ride reach the peak. Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous. Sit calm and explain to kids what part of the game this is and foreign languages. They hold raws, events in different continents. Put my lyrical contents in monuments. In ghetto garments, I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right vibe. They mad cause I managed to reign so long. Like they chance to get money done came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night. And the sisters that be keeping us right when I be on the mic.
Hardcore, real hell.
I'm internationally known, yo.
Hardcore, real hell.
I'm internationally known
when I be on the mic.
Hardcore,
real hell.
So all hail the honorable.
Et j'espère que vous avez kiffé cette bounce avec moi. Il s'agissait de l'équivalent de Nesbill outre-Atlantique, en fait, de Rakim sur When I Be On The Mic. Tout de suite, on va s'écouter une petite chronique d'Ivan.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Ivan dit...
Je ris en ce mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on s'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un dawa, je m'en perds de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, tes souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, bon, c'est du passé. La déchèvre des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin. J'aime que la femme qui m'a donné le 500.
Bonjour à tous, je suis Ivan le stagiaire et je veux aujourd'hui vous présenter un artiste membre de la New Wave, La Fève, de son vrai nom Louis-Ambroise Germain. Certains l'ont peut-être connu sous le nom de Orfève. Il est âgé de 24 ans, il est né dans le 20e arrondissement de Paris, mais a grandi à Fontenay-sous-Bois en Val-de-Marne, à la limite de la Seine-Saint-Denis.
Heurté, 2021, yes. Ça m'a mis un coup mal le cul quand j'ai compris qu'ici j'étais que de passage. Le CV m'enlise, évidé, si on t'a proposé, frérot, coûte pas ça. Là j'ai des phases, mais on m'a dit ça allait peut-être partir en grandissant. C'est bizarre en y repensant, je sais pas où la fée sera dans 10 ans. L'autre, il veut mon bien, je n'y crois pas, donc maintenant on fait les choses en low-key. On a fait les choses quand il fallait les faire. Donc...
Comme vous l'aurez remarqué, La Fève fait partie des styles musicaux du rap, de la trap et du cloud rap. Quelques-unes des influences de La Fève sont Youssoupha.
La banlieue se débat, traite sur un tas de tunnels. Les voix du ghetto sont auto-tunées. Le pied au plancher dans tous les tunnels. Micro 9mm, on va parfumer.
C'est Fiu.
Le rap c'est flou, y'a pas de sous. Faut du liquide, je la nique dans tes enceintes. Faut qu'elle perde ses os. Oh. Le lion de la terre en cas dans le zoo. Mouille ton caleçon, comme sur gazon, c'est l'occasion.
Ateyaba.
Les femmes viennent de Vénus, les femmes aiment le vrai luxe. Les femmes parlent comme mes ancêtres, les femmes parlent en rêve. Certaines sont des belles mères, certaines sont des belles sœurs. J'apprécie quelques joints qui gravitent dans mon secteur.
3010.
Je sais que le message est reçu, elle sait que le message est précis. On sait que le message est précieux. Pour la monnaie, tout est pressé. Olé, ouais, olé. T'es où, frère? Tu devais décoller. On me le disait trop. Maintenant, t'es où? Tu me fais rigoler.
Sa maison de disques est Wallon, Ada France.
Claire. Je passe un coup de fil à mon frère. Tu sais, je voulais baiser le game. Et je peux pas le faire sans mon gang. Je suis tout là-haut, j'ai continué ma lancée. Dis-moi qui peut me stop. J'ai beaucoup trop donné, ma luck, tu me connais. Si t'es mon temps, je te veux au top.
Il a commencé à rapper en 2015, il avait donc 15 ans. Il est membre du mouvement musical de la New Wave, mouvement issu de la fin des années 2010, littéralement la nouvelle génération de rappeurs français. La New Wave se caractérise par une hybridation des genres et une volonté de dépasser les étiquettes et les préconçus stylistiques du rap. Pourquoi j'ai choisi cet artiste? Eh bien, ses musiques me rappellent mon quotidien, elles ressemblent à mes journées, elles me rassurent et me rendent bien. Comme dit la fève, ça m'a mis un coup mal au gueux quand j'ai compris qu'ici j'étais que de passage. Ce sera tout pour moi.
Et merci beaucoup Ivan sur cette chronique sur le goat de la plug et de la new wave, la fève. Tout de suite, on enchaîne sur une chronique de Gauthier.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Gauthier, qu'as-tu à nous dire ce soir ?
Bonsoir ! Cette semaine, c'est ma 44e chronique sur ces ondes. Et figurez-vous que le week-end dernier, j'ai été à Londres et... Vous savez quoi ? C'est la 5e fois que j'y vais depuis septembre. Bon, lance la musique quand même, qu'on fasse un peu semblant. Donc j'ai vu, non pas une, non pas deux, mais bel et bien, trois comédies musicales. Et oui, moi j'ai été à Londres pour voir des comédies musicales. Mon portefeuille va m'en vouloir, moi je vais finir sur la paille. Bah non, en fait. En fait là j'y étais beaucoup de fois et mon portefeuille, bah il se porte plutôt bien. Hein. Il a l'air de tenir le coup parce que là vraiment j'ai tout fait pour le vider et j'ai pris les places d'Eurostar les plus chères que j'ai pu voir. Bon, j'ai gardé la deuxième classe pour conserver quand même l'ambiance du prolétariat, les bruits et les odeurs. Mais sinon j'ai pris les premiers rangs de chaque théâtre, j'ai payé pour un meet and greet avec des acteurs alors que je m'intéressais même pas à qui ils étaient. C'était juste pour avoir des photos à revendre au cas où ils deviendraient connus dans 10 ans. J'ai acheté tout le merch de tout ce que j'ai été voir et ce en double exemplaire. J'ai même acheté un chouchou pour cheveux avec le thème de la comédie musicale. Non mais on est où là ? Et malgré tout ça, malgré toutes mes tentatives pour me ruiner, et ben il me reste encore de l'argent. Qu'est-ce que c'est chiant d'être riche, putain. Obligé de toujours pouvoir se permettre des loisirs, ça m'énerve. J'ai même pas envie de tout ça. À la base, moi, je déteste ça, moi, les comédies musicales. Mais je suis juste en cruel manque d'inspiration pour dépenser mon argent. En fait, ça y est, c'est devenu la routine. Je vais à Londres le temps d'un week-end, je prends même plus de congés. Maintenant, ça n'a plus aucun sens. Je vais à Londres comme si c'était rien. Là, il y a vraiment une barrière mentale qui vient de tomber et qui me dit « qu'est-ce qui t'empêche d'y aller tous les week-ends, en fait ?» Carrément, maintenant, j'en ai tellement vu que je m'ennuie devant des comédies musicales. Je me permets même de critiquer la mise en scène, critiquer des choix de casting. Je me pose la question de si je vais partir pendant l'entracte quand je suis pas suffisamment diverti. Non, mais on est où, là ? Non, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est vraiment ça que je suis devenu ? C'est vraiment ça que le chemin sur lequel je me suis engagé ? Le chemin de la bourgeoisie ? Bon. Je sais pas s'il est trop tard, mais dans le doute, je pense qu'il y a quand même des précautions à prendre. La première, c'est de m'éloigner de tout ce qui touche à la comédie musicale. Plus de week-end inopiné à Londres, ou alors si, mais interdiction de passer devant un théâtre. Obligation d'arracher chaque affiche que je croise dans le métro qui fera la promotion d'une comédie musicale. Chaque fois que je penserai à une seule note d'une seule chanson de comédie musicale, je dois envoyer un message à une personne avec qui j'ai coupé les ponts il y a 10 ans. Et d'en assumer les conséquences. Et bien sûr, la dernière étape pour me détacher de tout ça, je dois me désengager de la comédie musicale Ticket to Hell dans laquelle je devais jouer les 10 et 11 juin prochains, et pour laquelle la billetterie est en ligne et il ne reste plus qu'une vingtaine de places, alors il faut se dépêcher. En plus, maintenant que je suis pas dedans, ça vous fait quand même une super occasion de venir. Salut.
Merci Gauthier et merci à Hugo et à José Louis pour cette magnifique interview de Anne Puyon. Merci à José Louis pour sa super chronique sur le climat. À Hugo d'ailleurs aussi pour ce super zoom de Trifem qui m'a beaucoup intéressé. À Ivan pour nous rappeler que la plug est le futur du rap, qu'on le veuille ou non. Et à Gauthier pour cette touche d'humour magnifique. Je cède tout de suite l'antenne aux voix du crépuscule. De quoi parlons-nous ce soir ?
Eh bien, on parle de l'ombouiri. C'est un rituel de guérison qui se pratique au Gabon.
Très bien. Ça m'a l'air très intéressant. Je vais rester en studio pour écouter, moi. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, essayez d'être heureux.